Alors, le kitsch, d'ailleurs, je mettais, il y avait un petit titre, vous voyez, objet transitionnel, parce que ça, c'est en m'inspirant de ce qui a été dit sur Winnicott. Je me disais, tiens, je vais mettre objet transitionnel. Mais en fait, mon idée, ce n'était pas tout à fait ça, c'est objet transactionnel, en fait. C'est-à-dire que c'est. Eh oui, eh oui, eh oui. Et c'est ça qui nous intéresse, vous avez remarqué, quand on travaille sur le tourisme, on est vraiment sur ce genre de choses. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un dispositif kitsch dans le tourisme? Alors, l'exemple qu'on va prendre, on travaille sur une ville qui est une grande ville touristique vietnamienne, qui s'appelle Da Lat, qui était une ancienne station touristique coloniale et qui aujourd'hui est la ville où on va passer son voyage de noces quand on est un Vietnamien d'une famille, disons, moyenne de Saïgon, quoi. Voilà, c'est là qu'on va. C'est équivalent un peu de Venise, mais complètement kitsch, c'est-à-dire complètement construit pour le touriste. Alors, ça nous donne quoi le dispositif kitsch? Alors, peut-être que tu as passé la photo d'après. Ça nous donne des choses comme ça. En fait, je ne vous ai pas fait le plan de la ville, tout ça, mais ça nous donne. Voilà, la situation habituelle dans la ville kitsch, la station, c'est de se prendre en photo, et souvent en selfie, ce n'est pas le cas là, vous voyez, mais souvent, là, on se prend en selfie, voilà, on est deux, hein, alors je ne sais pas si c'est un jeune couple, mais voilà, hein, ça peut être deux amis, ça peut être, mais en général, c'est plutôt un couple, et. Évidemment, on est dans un objet kitsch, c'est-à-dire un objet stéréotypé, et là, par rapport à Cendrillon, je suppose, enfin, par rapport à ce genre de choses. La particularité de ces objets, d'après ce que je vous ai dit, c'est qu'ils sont là pour qu'on soit pris en photo dans l'objet. C'est pour ça qu'ils sont fixes. C'est pour ça qu'il n'y a pas de vie, en fait. Parce que si vous mettez de la vie, et je vais vous prendre l'exemple de la photo suivante, peut-être. Non, la photo suivante, la diapo, pardon. Avance, avance. Voilà. C'est l'exemple des signes. Alors, les signes, c'est Y, mais enfin, on pourrait se poser des questions. Alors, ces signes, mais si tu reviens sur l'ensemble de la diapo, qu'est-ce qu'on voit? On voit que quand on veut, le lac est au centre du dispositif de la station. La station a été construite là-dessus, c'est une station climatique en fait, à l'origine. Donc on a exactement la même chose en Europe, toujours le lac. Voilà. Vous avez l'endroit qui était à l'époque de la colonisation, donc il a jeté le club nautique. Et puis, vous prendre en photo devant un lac, ça ne veut rien dire. L'eau. C'est très bien l'eau, mais on peut s'y baigner, etc. Mais la photo n'a pas de sens. Qu'est-ce qui donne du sens à la photo? C'est un objet significatif de la photo, c'est-à-dire un signe. Le problème du signe, c'est que c'est tout petit, ça bouge, ça vole. Si vous approchez de lui, il disparaît. Et d'ailleurs, là, le problème du signe à Dalat, c'est qu'il n'y en a plus. Alors, on s'était d'ailleurs, quand on a commencé l'étude, on s'était dit, mais est-ce qu'il y a jamais eu des signes? Et si. Si, si, justement. Si, 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 si. On a des photos. Ah, bah, je suis désolé. On a des photos des années 30 où, après la création du lac, puisque c'est un lac artificiel, après la création du lac, il y a des signes.
Bon, personne n'y allait.
Bon, peu importe.
Personne n'y allait. Je peux vous garantir que j'ai jamais vu de signe. Dans tous les mandats, j'ai jamais vu de signe à Dalat.
Bon, ce qui veut dire que tu as vécu à Dalat quand tu étais enfant. Ah non, mais j'ai fait une déduction, quoi. Voilà.
J'ai vécu à Dalat.
Bon, je suis désolé de ne pas avoir amené la photo du cygne pour démontrer qu'il y avait des cygnes, mais enfin, peu importe. D'ailleurs, ce n'est pas tellement grave par rapport à notre problème. Voilà. Donc, ces cygnes donc sont artificiels, ce sont des pédalos. On va dessus et à ce moment-là, on se fait photographier sur le signe. Ou alors, c'est des signes, comme vous le voyez, au bord du lac en fleurs. Et à ce moment-là, on est. Voilà. Et du coup, la photo devient signifiante. Donc, le rôle de l'objet matériel, très bizarrement, c'est de produire c'est d'aider à produire de l'image. Voilà, du sens. Alors, je dis très bizarrement, c'est idiot, mais c'est la fonction de représentation qui l'emporte sur la fonction de matérialité de l'objet. Et c'est ça, d'ailleurs, le principe du kitsch, c'est qu'en fait, il n'y a plus l'objet en soi, il est faux, il est en plastique, n'importe quoi. L'objet en soi n'a pas d'intérêt. Ce qui compte, évidemment, c'est l'image de l'objet. Et là, c'est l'image de l'objet médiatisée par la photo numérique qui est envoyée souvent, on le voit très souvent en Asie, hein, mais un peu plus qu'en Europe, envoyée immédiatement aux amis sur Facebook et même carrément, c'est plus de la photo, c'est de la vidéo, c'est de l'image, c'est du film et on est en train de discuter avec ses amis en Chine ou ailleurs, hein, voilà, sur le bord du lac. Voilà. Donc là, c'est la preuve par l'objet, mais l'objet faux. Voilà. Et c'est là, c'est pour nous, c'est un des grands problèmes du kitsch, et on le voit très bien sur les dispositifs muséographiques, etc., c'est que du point de vue de la représentation, mais même de la perception finalement, le faux devient plus vrai que le vrai, quoi. Puisqu'il n'y a plus de signes, alors peut-être qu'il n'y en a jamais eu, mais comme il y en a eu en photo, je suis un peu embêté, à moins qu'à l'époque, ils aient fait des montages photos. Mais voilà, c'est tout à fait possible. Donc, le lac est faux, il est artificiel. Enfin, c'est un vrai lac, mais ce n'est pas un lac naturel. Les signes sont faux, voilà. Et finalement, qu'est-ce qu'on donne à voir dans la photo? C'est le fait qu'on est heureux, c'est la lune de miel. Donc, en fait, on met en image, on diffuse sur le réseau, les réseaux sociaux, auprès de ses amis, on diffuse l'image d'un couple heureux, voilà, qui est en train de passer quelques jours à Dalat. Il faut savoir aussi, et on peut rester sur cette photo, parce que ça, c'est aussi intéressant, mais c'est aussi il y a aussi un autre stéréotype très important, alors ça, tu dois le connaître, puisque tu es d'origine, mais le fait, et oui, c'est la vraie autochtone, quoi, et ça me fait plaisir de pouvoir échanger avec, parce qu'il y en a très peu d'autochtones de Dalat, puisque c'est une construction complètement artificielle, donc, mais au moins, il y en a une, donc, et oui, c'est un peu l'exception, quoi, donc... Ce qui est tout à fait amusant, c'est que c'est vendu aussi Dalat comme un substitut de Paris. En effet, quand vous êtes vietnamien ou même chinois, finalement, vous n'avez pas suffisamment d'argent pour vous payer le billet d'avion pour aller à Paris. Voyage de noces, c'est quand même normalement, c'est Paris. Hein? Voilà. Mais c'est difficile. Et du coup, on a construit dans cette ville, on a fait une petite tour Eiffel, il y a un petit Moulin Rouge... Enfin, il y a même trois tours Eiffel, d'ailleurs, bizarrement, parce qu'ils ont tendance à multiplier les tours Eiffel. Mais voilà. Donc on a un petit Paris qui est construit de la même façon pour la photo, le selfie. Alors tout le monde connaît ici, je suppose, non pas les photos qui sont prises des tours Eiffel de Dalat, mais les photos qui sont prises de la tour de Pise, où vous avez sans arrêt des montages, c'est-à-dire la personne qui soutient la tour de Pise, etc. Ça, c'est le selfie typique. Eh bien, vous avez la même chose à Dalat. Et ça, c'est la grande propriété du kitsch qu'on va retrouver dans tout le numérique, c'est qu'on change complètement les échelles des objets. Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que le signe, là, il est bien plus petit, évidemment, en réalité, et la tour Eiffel, elle est bien plus grande, en réalité. Hein, 300 mètres, et celle de Dalat, elle fait 50 mètres ou 60 mètres, quoi. Mais ça fait rien. Sur la photo, selon l'angle de vue, selon la façon dont vous mettez la main, etc., etc., finalement, vous rétablissez une échelle. En tout cas, une échelle de crédibilité du fait que vous êtes dans le substitut de Paris ou que vous êtes auprès d'un lac qui serait un lac comme le lac Léman ou ce genre de choses. D'accord ? Voilà, si vous voulez, une des particularités du kitsch, c'est-à-dire que l'artefact, l'artifice, l'artificiel, l'aménagement finalement pour l'artefact l'emporte sur le milieu naturel. Alors qui est quoi d'ailleurs ? Qui est quoi ? Alors peut-être qu'on va avancer. Avance un peu, simplement. Le milieu naturel, c'est quoi finalement ? C'est, on est à 1600 mètres d'altitude, donc sur les hauts plateaux vietnamiens, Et le climat, bah, c'est un climat qui est beaucoup plus tempéré qu'à Saïgon, que sur la côte. Et donc, c'est un endroit où on vient prendre le frais dans la forêt. C'est l'endroit où il y a du café, c'est l'endroit voilà, où on peut se promener, etc. Et donc, l'écrin, si vous voulez, naturel, entoure ce paysage qui est kitschifié à un point colossal, quoi. Ce n'est que ça, que ça. Alors, la question qui se pose, c'est pratiquement l'inclusion, c'est-à-dire qu'est-ce que cette hyper-réalité, d'une certaine manière, s'inclut, comment s'inclut-elle, comment s'articule-t-elle avec le milieu naturel ? Parce que, pourquoi je pose cette question ? Parce que la clientèle vietnamienne est très intéressée par le côté kitsch, comme la clientèle, on va dire, chinoise, mais la clientèle européenne, pas du tout. La clientèle européenne vient pour le milieu naturel, les cascades, la forêt, le trek, etc. Et comment réussir l'articulation de ces deux choses ? Alors, là, vous en avez un exemple, mais qui est très réussi du côté vietnamien et très loupé du côté européen. Et c'est là qu'on voit que les valeurs ne sont pas les mêmes. Il y a tout un lieu qui est un lieu, on va dire, justement de gorge, de cascade, etc. Kitschisation vietnamienne qui l'emporte, parce qu'il y a de plus en plus de clientèle vietnamienne. Je crois qu'on est à 2 millions de, et quelques de Vietnamiens qui viennent. Et il doit y avoir 100 000 ou 200 000 étrangers hors Asie du Sud-Est. Eh bien, on aménage, et on aménage très lourd, quoi. C'est-à-dire, en fait, on en fait un parc d'attractions dans un milieu naturel. Là, c'est une forme d'hybridation qu'on connaît très peu en Occident, en fait. Hein, on a toujours une séparation. Le parc d'attractions, c'est dans un lieu qui est uniforme, d'une certaine manière. Et au contraire, le milieu naturel, on ne le transforme pas en parc d'attractions. Ce n'est pas toujours vrai, bien entendu, mais là, l'hybridation est totale, absolument totale. Et le résultat de cela, c'est que ça se propage très vite, parce que nous, ici, on a des rythmes d'aménagement qui sont extrêmement lents par rapport au Vietnam ou la Chine. Hein, moi, d'une mission sur l'autre, et mes missions, c'est tous les 6 mois, hein, d'une mission sur l'autre, il y a des fois, je suis complètement sidéré, quoi, parce que... Bah, bien sûr, bien sûr. Tu n'auras pas besoin de passeport, du coup, ni de visa. C'est ça qui est chouette. Si, de passeport, mais pas de visa. Alors, du coup, c'est presque ridicule quoi, comme aménagement, parce qu'on met tous les aspects de la montagne, le téléphérique, enfin, je vous passe tout, hein, mais c'est complètement aménagé. Bien sûr, il faut payer, entendu. Et voilà, on a des touristes qui font... par des éléments mécaniques qui vont faire la visite. Et on voit les touristes, européens, australiens, etc., qui, eux, sont à pied, hein, et qui n'arrêtent pas de dire « Ah, ben, c'est pas possible, ce téléphérique, etc. etc. » Voilà. Donc on a cette contradiction entre ce qu'on pourrait appeler, vous voyez, une sorte de recherche d'authenticité, mais c'est vraiment lié à ce qu'on vient de dire tout à l'heure, quoi. C'est recherche d'authenticité avec la médiation la moindre possible, hein. On le voit, regardez, sur les chemins de randonnée, on supprime des signes, enfin, etc. Hein, on est là-dedans. Et puis, vous avez un autre tourisme qui est en parallèle, hein, qui est parfois dans les mêmes hôtels, etc., et qui, lui, est au contraire sur la recherche de signes, ces signes faisant disparaître pratiquement ce qu'il y a derrière le signe, quoi. Hein, voilà. Donc, vous voyez, alors, je ne sais pas comment on pourra nommer ça, mais c'est... un de ces aspects importants que je voulais développer avec vous sur cela. Alors, je vais arriver à un paradoxe. J'aime bien terminer par des paradoxes. Et si on revient sur la diapo d'avant, voilà. Celle-là, elle est très intéressante. Parce que le kitsch a une histoire, finalement. Parce qu'on pourrait se dire, voilà, le kitsch, bah, c'est aujourd'hui. Et puis demain... C'est presque une modernité, finalement. Mais non, parce que le kitsch a été inventé... Enfin, lorsqu'il a été inventé à Dalat, en tout cas, il n'est pas inventé à Dalat, bien entendu, mais lorsqu'il est inventé à Dalat, il est inventé par les colons eux-mêmes. Regardez ce que vous avez au-dessus, là, la maison, là, qu'on pourrait zoomer. Ça, c'est une maison coloniale, une villa de colons de Saïgon, dans les années 30, qui, évidemment, est resté sur place quand les colons partent au moment de l'indépendance. Enfin, il y a deux indépendances, à vrai dire, au Vietnam. Enfin, première, deuxième. En tout cas, ils partent. Et cette maison est laissée à l'abandon. À l'époque communiste dure, quoi. Et puis, il y a une sorte de, je dirais pas de perestroïka, mais je vous emploie pas le terme, Nicole nous le dira, d'ouverture du communisme. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que le communisme vietnamien soit très, très rigide en termes d'économie, de marché. Eh bien, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Cette villa, qui est donc une copie d'une villa européenne, mais chaque colon avait copié sa région d'origine. Eh bien, cette villa est, elle, aujourd'hui, mise en patrimoine. C'est-à-dire qu'il y a 1000 villas de Dalat qui sont classées au patrimoine, et ils essayent actuellement de le faire classer au patrimoine mondial. Donc, le kitsch colonial, hein, et je crois qu'on peut employer ce terme-là, parce que vous pourrez le discuter, hein, c'est évident. Hein, mais dans la thèse, parce que je fais référence à une thèse, là, en fait, dont je m'occupe, mais ce kitsch colonial, aujourd'hui, devient un patrimoine vietnamien, en tout cas, ça c'est clair. Hein. Il y a des restaurants, c'est là, il y a des chambres nuptiales, il y a tout un tas de choses dans ces villes-là, et peut-être un patrimoine mondial. Donc, il y a une patrimonialisation de l'artefact, mais c'est pas nouveau. Moi, j'ai été surpris. Une fois, je suis amené à traduire un article sur le gothique en Angleterre. Et j'avais été très surpris, parce que je n'avais pas du tout étudié cette affaire-là, que l'Angleterre est un faux pratiquement total. C'est-à-dire que tout le gothique est du gothique du 19e siècle. Nous, Avignon, on était un peu branchés là-dessus. Mais là, à ce point-là, j'étais assez surpris. Et donc, c'est en train de se construire sous nos yeux, ça. C'est en train de se construire sous nos yeux dans un univers numérique, dans l'univers où c'est la photo numérique, hein, envoyée sur nos smartphones, alors les futurs smartphones, qui l'emporte. Hein, voilà. Alors on va terminer peut-être. Si vous voulez, on discutera parce qu'il y a d'autres diapos sur le vin, par exemple, le faux vin, enfin des choses comme ça. Il y a plein de choses à dire. On va terminer peut-être voilà. Non, mais il y a un texte avant. Voilà. En fait, ce n'est pas une conclusion, parce que la conclusion, c'est vous qui allez la faire. Donc, on va ouvrir le débat. Donc, ma petite présentation de transition, là, elle est importante, peut-être, par rapport au texte qu'il y a derrière. Et on vous proposait d'avoir ce texte. Alors, vous pouvez le lire, oui, c'est bon, tout le monde peut le lire. On n'a pas besoin de rajouter de la parole sur le texte aussi. Je vais laisser Julie le lire alors. Mais voilà, ce texte, il nous a paru important parce que, d'une certaine manière, il résume, allez, il touche en tout cas à tous les problèmes qu'on aura évoqués aujourd'hui.
Alors, en fait, c'est un petit texte que j'ai trouvé dans la revue MEI, qui était consacré au territoire du virtuel, donc en 2013. Et donc, c'est un texte de présentation et qui introduisait un certain nombre d'articles. Voilà, je le lis. Les différentes façons d'envisager le rapport du virtuel à la réalité concrète restent frappantes. On passe d'un virtuel comme prolongement de la réalité, où rien ne distingue le premier de la seconde, voire à un virtuel qui s'y substitue. Un virtuel qui s'y oppose jusqu'à son hybridation, son métissage ou son articulation avec la réalité. Le nombre réduit des analyses se rapportant au versant logico-mathématique du virtuel, c'est-à-dire à sa définition technique, résonne donc avec l'un des constats des auteurs du numéro, selon qui tout concourt aujourd'hui à rendre la technique neutre et transparente pour la faire oublier. C'est sans doute cet oubli de la technique qui explique la diversité du statut du virtuel face à la réalité physique et, partant, la difficulté à le définir.
Voilà.